Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de magazine Droits et Devoirs qui parle aujourd'hui du droit d'accès à l'information, un des droits civils fondamentaux du citoyen. L'accès à l'information est un des droits inaliénables dont a besoin chaque peuple pour connaître la gouvernance de son pays, déclare le rapporteur spécial sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique, Madame Faith Lakula. La Constitution congolaise dispose à son article 24 que toute personne a le droit à l'information. La liberté de presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication sont garantis sous réserve de l'ordre public, des bonnes mœurs et des droits d'autrui. La loi de juin 1996 en fixe les modalités. À cet effet, les organisations des professionnels et des médias poursuivent leur plaidoyer pour le vote de la loi sur l'accès à l'information, projet encore sous examen au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale depuis 2 ans. Quelle est l'opportunité de ce projet de loi? Quelle est sa particularité par rapport à la loi de 1996 qui organise le métier du journalisme en RDC? Quelle analyse faire à ce jour concernant l'accès à l'information dans notre pays? Quels en sont les pesanteurs?
Droits et devoirs est heureux de recevoir le ministre de la Communication et Médias, Lambert Mende Omalanga, pour parler du droit d'accès à l'information. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour, cher ami.
Quelques professionnels des médias, une députée nationale et l'émissaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, rapporteur spécial sur la liberté d'expression, interviennent également dans ce magazine, coproduit avec le concours de Jean-Marc Matouaki. Jeff Ngoyi Mulonda vous le présente. Encore une fois, bienvenue dans votre magazine Droits et Devoirs qui se penche sur le droit d'accès à l'information. Sans information, les Congolais ne peuvent pas participer à la gouvernance de leur pays. Les citoyens ne pourront pas, sans information, exercer le droit de vote et ne peuvent pas savoir quels sont les services qui sont proposés par le gouvernement. C'est en ces termes que s'est exprimée Madame Faith Lakula, rapporteure spéciale sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique, à l'issue de son séjour de plaidoyer auprès des autorités congolaises à Kinshasa le 4 octobre dernier. On l'écoute avant de recevoir le ministre Mende.
Nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, des représentants d'organisations non gouvernementales et la ministre des Droits de l'Homme. Et nous avons rencontré les 2 sénateurs qui ont écrit la loi et qui ont présenté le projet de loi devant l'Assemblée. Nous avons eu des réponses très positives de ces rencontres, en particulier les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale se sont engagés à assurer que le projet de loi soit adopté dès que possible. Ce projet de loi est important parce que le droit d'accès à l'information est un droit essentiel pour que les citoyens puissent jouir de leurs droits. Sans information, les Congolais ne peuvent pas participer à la gouvernance de leur pays. Les citoyens ne pourront pas sans information exercer le droit de vote et ils ne peuvent pas savoir quels sont les services qui sont proposés par le gouvernement.
À présent, nous recevons le ministre Lambert Mende, porte-parole du gouvernement, qui nous parle des particularités entre la loi de 1996 et le projet de loi en gestation. Le ministre évalue également son action au ministère depuis plus de 10 ans en faveur des médias congolais, notamment la liberté d'expression acquise selon lui.
Je pense que la loi qui concerne l'accès à l'information est autre chose que la loi qui organise l'exercice du métier de
le journaliste.
Des acteurs du secteur des médias que constitue la loi 96. C'est un principe tout à fait nouveau et moi j'ai toujours soutenu le fait qu'il y ait une loi particulière qui garantisse l'accès à l'information, pas seulement aux journalistes, c'est à tous les citoyens dans l'ensemble des services publics de l'État. C'est une des conquêtes démocratiques très récentes et je suis un fervent avocat de ce principe du libre accès à l'information, surtout pour les journalistes parce qu'ils sont la courroie de transmission entre les institutions publiques et les citoyens, mais c'est en faveur de l'ensemble des citoyens que cette loi est projetée. Ça n'a rien à voir avec l'organisation interne du secteur de l'information et des médias comme tel, qui constitue l'objet de la loi 96.
Vous êtes à la tête du ministère de la communication et médias. Beaucoup se demandent qu'est-ce que le ministre a déjà fait dans ce secteur en faveur des médias congolais. Depuis plus de 10 ans que vous êtes à la tête de ces ministères.
Oh, mais écoutez, je ne pense pas qu'il y ait des doutes quant à notre volonté de pouvoir aider les médias à faire leur travail. Les médias ont besoin d'abord d'un espace de liberté. Je ne pense pas que cet espace leur manque en République démocratique du Congo, contrairement à une idée parfois répandue de manière malveillante ici et là. Nous sommes un pays qui, depuis la fin de la Conférence nationale souveraine des années 90, a vu les acteurs, les professionnels des médias conquérir leur droit d'informer, et on n'a jamais assisté à un quelconque recul, du moins de nature significative, depuis les années Mobutu. Nous n'allons pas nous accorder ce privilège-là d'avoir amené cette liberté aux journalistes. Je pense que les journalistes se sont libérés vers la fin du régime de la Deuxième République, et depuis lors, nous sommes un des pays phares. Autre chose est d'avoir des problèmes infrastructurels comme l'ont la plupart des médias congolais. Ils ne sont pas richement équipés, ils souffrent de même carence que la plupart des entreprises économiques en général souffrent, mais dire vraiment que les médias
beaucoup
congolais...
Beaucoup de gens travaillent même sans contrat.
Sans même avoir un contrat de travail, parce que les entreprises de médias sont généralement des entreprises qui sont financièrement, économiquement en difficulté, mais cela n'a rien à voir avec la façon dont nous, gouvernants, nous mettons en œuvre la liberté d'informer pour les journalistes. Je pense que nous sommes le pays où il y a le plus de liberté, en tout cas dans cette région du continent africain. Et donc ça, c'est dû peut-être à notre passé aussi de victime d'une dictature qui nous prédispose à mieux comprendre l'importance de la liberté, qui est quelque chose qui nous est cher et qu'il nous faut absolument entretenir, parce que c'est une conquête de tous les instants. Il y a bien sûr de temps en temps des saillies de la part de gens qui font du zèle, de la part de gens qui commettent des abus, mais encore faut-il que nous en soyons informés, et chaque fois que nous le sommes, nous intervenons efficacement pour remettre les opérateurs des médias dans leurs droits.
Parce que chaque citoyen a des droits et devoirs. Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, nous en parlons dans votre magazine Droits et Devoirs. Mieux connaître vos droits pour bien défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Retrouvez Jeff Ngoyi tout le mardi à partir de 6h30, 13h30 et 20h30, tous les jeudis à 9h15.
Nous poursuivons Droits et Devoirs sur la thématique du droit d'accès à l'information. Kasonga Chilunde, président de l'Union nationale de la presse congolaise, plaide pour le vote rapide de la loi sur l'accès à l'information. Il dénonce la violation de certaines des dispositions de la loi de juin 1996.
Oui, vous savez, la loi de 1996, non seulement qu'elle n'est pas appliquée, mais dans certaines de ses dispositions, elle est déjà caduque. Parce que même aujourd'hui, là, nous sommes en train de nous battre pour l'actualiser. La loi d'accès à l'information, c'est une loi d'ailleurs générale. Et vous avez aujourd'hui plus de 100 pays qui l'ont déjà adoptée, promulguée et qui l'ont mise en œuvre. Il n'y a que chez nous ici où nous sommes en train de tergiverser, je ne sais même pas pourquoi. Donc, je crois qu'il faut séparer, parce que dans la loi de 96, on parle d'une manière distraite de l'accès à l'information. Pour nous, de la profession, on parle des sources d'information. Mais cette loi pour laquelle nous nous battons aujourd'hui, elle va bénéficier à la presse, mais aussi à toute la population congolaise. Tout citoyen qui a besoin d'une information quelconque peut aller à un service de l'État et se refera à cette loi. L'agent commis à ce service-là doit donner l'information parce que ce citoyen-là en a besoin. C'est ça la démocratie. La démocratie repose sur deux piliers importants. Vous avez l'information et vous avez la justice. Si on vous refuse l'information et que la justice n'est pas rendue comme il se doit, nous sommes dans la dictature. Donc c'est pour cette raison que nous nous battons afin que notre démocratie puisse vivre, notre démocratie puisse être dynamique.
politique.
Donc on aura affaire à deux lois. Si cette loi passait, on aura aussi cette loi de 1996, c'est ça?
Mais bien sûr, parce que la loi de 96 que nous sommes en train d'actualiser concerne principalement les médias.
Le statut du journaliste.
Oui, c'est-à-dire qu'on va mettre tout dedans, statut du journaliste et tous les avantages et ainsi de suite. Mais cette loi d'accès à l'information, elle concerne tout le peuple congolais. Même si celui qui peut s'en tirer à bon compte comme étant le plus grand bénéficiaire, c'est la presse. Mais qui travaille pour l'information à donner à la population.
Maintenant, le blocage se situe à quel niveau?
Le blocage se situe au niveau de la commission PAJ. Le Sénat l'a adopté, la loi est venue à l'Assemblée, et il y a eu tout le tralala que vous connaissez, et puis on a constitué une équipe au niveau de PAJ, politique, administrative et juridique, et socio-culturelle. Ben, ils traînent à remettre ces observations au niveau de la grande commission, de la grande plénière, pour qu'elles soient adoptées par tous les députés avant d'être promulguées. Donc elle est bloquée à ce niveau-là de la sous-commission PAJ et socio-culturelle de l'Assemblée nationale.
Pourquoi ce projet de loi tarde à passer au vote depuis deux ans, selon Mme Eve Bazaïba, députée nationale et membre de la commission spéciale PAJ socio-culturelle? Il n'y a pas blocage.
C'est une nouvelle matière, c'est une matière importante, c'est une matière délicate, parce qu'on vote une loi pour soit corriger ou réglementer un fait qui existe. Je crois qu'il n'y a pas encore de blocage à ce stade. Tous les problèmes, c'est que le processus est long. Nous avions au niveau de la commission spéciale PAJ socio-culturelle dégagé un groupe de collègues qui ont travaillé à ces sujets. Bientôt, nous allons convoquer une plénière de la commission pour l'adopter. Nous avons retardé parce que nous sommes éprouvés, nous, à la commission socio-culturelle. Nous avons perdu notre collègue qui était impliqué aussi à l'examen de cette loi, l'honorable Machako. Dès que nous allons l'adopter, nous l'amènerons dans la grande plénière où il sera ouvert la période des amendements. Je crois que ça va évoluer. Nous ferons notre effort, nous ferons diligence pour qu'au cours de cette session, cette loi doit être adoptée au niveau de l'Assemblée nationale et que nous l'adoptions aussi en des termes identiques dans les deux chambres.
Quelle est la particularité de cette loi?
Non, il s'agit de l'amendement, il s'agit d'une nouvelle loi qui tienne compte de la nouvelle donne. Parce que outre les médias publics, nous avons aussi des médias privés. Alors, il y a aussi les nouvelles technologies de l'information qui sont là. Et celui qui donne l'information, ce n'est plus seulement les journalistes. Et l'accès à l'information, on ne passe plus nécessairement seulement par des organes de presse pour avoir l'information. Mais on a la possibilité d'avoir des informations partout. C'est ça quand même l'innovation qui tienne compte de la nouvelle donne. Et puis, il y a la pénalisation sur les imputations dommageables. Par exemple, des diffamations, la pénalisation de l'acte journalistique. Nous sommes en train de voir, faille-t-il pénaliser un journaliste qui a donné une information qui préjudicie certainement l'auteur de l'acte, mais qui donne l'information réelle à la population? Tout ça, c'est la question. Donc, nous allons tenir aussi compte du droit comparé et de la réalité, en fait, du droit, parce que l'accès à l'information est un droit. La liberté d'expression aussi, c'est un droit.
Donc, la loi, elle règle le problème de la dépénalisation des délits de presse.
Exactement, la loi règle les problèmes de la dépénalisation des délits de presse.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.
Nous poursuivons Droits et devoirs sur la thématique du droit d'accès à l'information, en recevant principalement le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Si l'UNPC dénonce le manque d'application de certaines dispositions de la loi de 1996, c'est justement l'absence des avantages directs ou indirects à accorder à la presse. Cette loi soutient les facilités en termes d'aide indirecte à accorder aux médias congolais par le gouvernement, dont le porte-parole parle ici en déplorant les difficultés budgétaires.
Je voudrais vous dire que quelle que soit la bonne volonté dont le gouvernement peut faire preuve, la plus belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. Donc la République démocratique du Congo est un pays qui se trouve dans l'état où il se trouve, du point de vue financier, du point de vue budgétaire, et donc forcément la plupart des droits sociaux, la plupart des droits professionnels qui doivent être garantis ou pris en charge par le gouvernement ne le sont pas encore. Prenez le secteur de l'éducation. Jusqu'à présent, nous ne pouvons offrir l'éducation gratuite qu'aux tout petits enfants, c'est-à-dire l'enseignement fondamental. Et encore, ce sont les frais que l'on appelle de Minerval qui commencent timidement à être pris en charge par l'État. Le reste, ce sont les parents qui continuent à prendre en charge parce que l'État est limité dans ses ressources. Je pense qu'il faudra que le trésor public soit à même de pouvoir en engranger suffisamment de moyens pour commencer à envisager la renonciation à certaines de ses ressources comme celle-là, les ressources fiscales, etc. C'est un combat, je le sais, parce que vos associations professionnelles ne manquent pas de nous le rappeler. Nous en parlons au sein du gouvernement parce que ce n'est pas une décision qui peut être prise par un seul ministère.
Et c'est depuis 1996.
Vous avez vous-même relevé le fait que c'est par un arrêté interministériel, oui, c'est-à-dire avec le ministère des Finances qui est chargé de collecter des recettes que nous devons prendre une telle décision. Or, il se fait que le ministère des Finances, le ministère du Budget nous rappelle tous les jours la pauvreté des moyens budgétaires qui sont disponibles.
Et les priorités.
Et donc, on risque d'appauvrir davantage l'État. C'est pourquoi on considère les entreprises de médias pratiquement au même titre que les autres entreprises. Et il y a même d'autres entreprises comme les entreprises de soins médicaux, comme les entreprises d'enseignement privé qui font les mêmes revendications, mais que le gouvernement n'est pas encore à même de répondre de manière positive. Mais je pense qu'avec le temps, avec l'amélioration des revenus de l'État, on doit pouvoir arriver à permettre à ces médias de pouvoir bénéficier de l'aide publique aux médias. D'entre-temps, nous avons entamé des discussions avec le secteur productif privé pour obtenir, notamment chez les avionneurs, notamment chez ceux qui vendent les intrants pour les entreprises de médias, de pouvoir prendre en compte le caractère de service public des médias. Mais ce n'est pas facile, parce que eux aussi sont soumis à cette obligation de pouvoir d'abord réaliser des bénéfices, et ensuite participer aux dépenses de la collectivité. Et nous sommes un pays avec peut-être des ressources naturelles importantes, mais des ressources naturelles qui sont sous le contrôle de partenaires étrangers, qui en fixent les prix, etc. Et nous devons faire vivre ce pays. Nous devons construire des routes, nous devons construire des écoles, nous devons construire le système de santé, nous devons sécuriser le pays. Et donc c'est avec le temps que nous pourrons arriver à cet idéal d'une prise en charge complète des besoins d'un service public comme les médias. Entre-temps, nous intervenons symboliquement. Je pense que dans les années plus ou moins fastes, il y a quelques années, j'ai procédé à la distribution de quelques aides à l'ensemble des médias. À deux reprises, nous l'avons fait. Cette année-ci, nous n'avons pas pu le faire, puisque même les ministères se trouvent obligés de serrer la ceinture. C'est vous dire qu'on demande des sacrifices à tout le monde, y compris aux acteurs de médias, malheureusement.
Ah oui. Donc, les saints ont des droits et les devoirs. Oui. Il faut avoir des patience aussi.
C'est ça.
La loi fondamentale dispose en son article 24 que les médias audiovisuels et écrits d'État sont des services publics dont l'accès est garanti de manière équitable à tous les courants politiques et sociaux. Suivons à présent ce qu'en pensent les journalistes GED, journalistes en danger, dont le secrétaire général Chivis Tshivwadi.
Je pense que cette question d'accès aux médias publics, il faut peut-être la poser expressément aux acteurs politiques, surtout ceux de l'opposition, pour qu'ils disent si ils ont accès ou non à ce que vous qualifiez de médias publics, parce que pour moi, je constate que la RTNC, si vous voulez parler bien de la RTNC, ce n'est pas, en tout cas, à mon sens, un média public à proprement parler, ou comme on aurait voulu l'avoir joué effectivement ce rôle d'un média de service public. Ce que moi je constate, c'est que la RTNC aujourd'hui, c'est un média d'État qui est au service du gouvernement et de la majorité au pouvoir.
Pour enrichir, puisqu'il y a d'autres chaînes, il faut aussi parler qui ne respectent pas la présomption d'innocence de certaines personnes qui médiatisent tout, alors que certaines choses ne sont pas médiatisées.
Les souhaits seraient qu'on puisse appliquer l'accord du 31 décembre afin qu'on puisse mettre en place de nouveaux animateurs. Peut-être que cela, ils peuvent permettre à ce que l'accès aux médias, surtout aux médias publics, soit équitable. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe à la RTNC, c'est du n'importe quoi.
Lorsqu'il s'agit des organes qui sont de l'obédience du pouvoir en place, on sent qu'il y a à boire et à manger. Hein. Par exemple, je prends le cas de la maison mère RTNC.
Lambert Mende désapprouve les professionnels des médias et évoque les faiblesses de la profession qu'il s'y est de corriger.
Je suis en mesure de démentir cette information. Et n'importe quel auditeur, n'importe quel téléspectateur peut la démentir. Parce que moi-même, j'assiste, soit à partir de ma petite radio dans une voiture, soit à partir de mon écran, à des débats houleux à la télévision et à la radio entre des acteurs de l'opposition et de la majorité. Mais vous savez, il y a des représentants de votre profession qui en font un peu trop, qui ont besoin parfois d'en rajouter, peut-être pour des objectifs qui ne me sont pas bien connus. Souvent, cette dépendance de la part de partenaires étrangers pour leur financement les amène à noircir un peu le tableau. C'est peut-être de bonne guerre, mais prétendre que la RTNC n'est ouverte qu'à des partis politiques de la majorité, c'est un mensonge. Comment alors expliquer l'existence d'émissions comme 200 de cloche ou d'autres émissions où l'on voit des journalistes qui animent des entreprises de médias proches de l'opposition et ceux proches de la majorité s'affronter de manière confraternelle, mais avec des idées qui sont parfois en pointe les unes contre les autres. Ça existe et donc c'est une fausse information.
Mais des pages et magazines entières sont réservées aux partis de la majorité, des publi-reportages.
Les publi-reportages sont une activité de la direction commerciale d'un média. Et donc je n'ai pas moi connaissance d'une plainte d'un responsable d'un parti d'opposition qui aurait sollicité un publi-reportage, l'aurait payé et aurait vu ce publi-reportage être refusé pour la simple raison qu'il appartient à l'opposition. Donc là, c'est du business as usual. Donc un publi-reportage, c'est une publicité. Et donc ce n'est pas des choses qui sont gratuites. Je pense que chaque station, chaque entreprise de médias a sa politique commerciale. Tout à fait. Si quelqu'un paye, il a accès. De la même manière.
Vous êtes patron d'un média, d'un journal. Et si on vous demandait aujourd'hui quelles peuvent être les faiblesses qu'il faut corriger dans le secteur médiatique congolais, par où il faut commencer?
Je pense que la première chose à faire, c'est professionnaliser davantage les acteurs qui servent dans ces médias. Il y a trop de confusion entre l'activisme politique, qui est tout à fait une activité, une occupation noble dans une société, et le journalisme, qui est une activité de compte rendu d'une réalité. Souvent, des activistes politiques s'érigent en journalistes et confondent le genre. On fait de l'activisme politique et on dit qu'on fait du journalisme. Et ça ne sert pas l'image du journalisme. Je pense que c'est quelque chose que les professionnels des médias eux-mêmes devraient absolument regarder d'un peu plus près.
Est-ce que l'accès à l'information règle le problème de gouvernance? Est-ce que la population peut avoir un œil sur la gouvernance, sur la manière dont la chose publique est gérée?
C'est une conquête qui est permanente, mon ami. Même aux États-Unis, il y a des documents sur, prenons l'assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy, qu'on a tué en 1963, qui ne sont disponibles, accessibles, même aux journalistes, qu'aujourd'hui, 50 ans après. Il y a des campagnes, des plaidoyers pour que même des informations comme celle-là ne soient pas l'objet de classification. Et donc, a fortiori, dans des pays jeunes comme les nôtres, vous savez, l'accès à l'information, c'est quelque chose qui doit être une conquête. Il ne faut pas croire que c'est des choses qu'on va offrir comme ça à des journalistes, puisque chaque État essaye de se protéger pour des raisons d'ordre public, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de protection des droits des autres, etc. Il faut que ce soit des exceptions. C'est ce que nous voulons obtenir avec cette loi sur le libre accès. Quand c'est excessif, c'est quelque chose qui pose problème. Et c'est le cas dans la plupart de nos pays, mais c'est une conquête. Je ne nie pas. Mais il ne faut pas donner l'impression que c'est une spécificité congolaise. Oui. Tout État a tendance à faire de la rétention des informations dont la divulgation serait susceptible de le fragiliser. C'est tout à fait normal. Oui. Et tout journaliste, normalement constitué, a tendance à faire en sorte de déverrouiller cette tendance à ne pas divulguer. Donc c'est un combat. Et moi, j'ai pris l'option d'aider la presse congolaise à obtenir ce déverrouillage. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que l'État veut toujours ne pas être fragilisé. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas dramatiser.
Donc il y a des informations auxquelles on ne peut pas accéder.
Il y a des informations qui sont classifiées, auxquelles on ne peut pas accéder dans tout État démocratique.
Maintenant, quel parallélisme faites-vous entre l'accès à une source d'information et l'accès à l'information? Nous sommes dans une émission citoyenne, puisque dans la loi de 1996, on met l'accent sur l'accès à la source d'information. Ouais. Maintenant, on veut avoir une nouvelle loi pour l'accès à l'information. Ce sera au moins plus général pour permettre à toute la population d'accéder à l'information.
Il n'y a pas de parallélisme possible. Une source d'information suppose une initiative volontaire de la part d'une personne, d'une institution, d'une entité qui met à la disposition du public une information qu'elle voudrait mettre à la disposition de l'ensemble de la communauté. Mais accéder à l'information, quel type d'information maintenant? Si c'est une information qui a trait trait à des questions sécuritaires, vous allez le trouver en but au verrouillage.
Le secret de défense.
Si c'est une information qui a trait à une instruction préjuridictionnelle dans un parquet, même aux États-Unis, en France ou en Belgique, vous n'allez pas demander à un procureur de vous ouvrir ce dossier, alors qu'il risque de vous dire, attention, je vous risque d'informer des complices de gens que je poursuis et que je ne serai pas en mesure d'arrêter parce qu'ils seront au courant qu'on les recherche. Donc, secret de l'instruction judiciaire. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nécessite beaucoup de réflexion, et même des élaborations scientifiques assez poussées.
L'information doit aussi protéger la liberté des autres.
Absolument.
Il ne faut pas porter atteinte à la vie privée des uns
et des autres. Pas porter préjudice aussi à la sécurité de l'État, pas porter préjudice à l'ordre public, pas porter préjudice aux bonnes mœurs, etc. C'est ça le problème. Quelle est la limite? C'est ça que nous demandons à nos juristes d'y travailler. Et moi, je pense que la petite commission qui s'est mise en place au niveau de votre profession est en train d'y réfléchir.
Et ça fait deux ans, que cette loi, on l'attend.
Avec des universitaires, des juristes, des communicologues, etc., pour voir comment trouver le juste milieu. Parce qu'il y a un juste milieu.
Et quel soutien vous apportez pour que cette loi soit votée le plus rapidement possible?
Moi, je ne suis pas législateur. Je l'ai été avant de venir au gouvernement. Il appartient au législateur de pouvoir faire sa part. Mais moi, je donne souvent la tribune à ceux qui se font les défenseurs de ce principe-là. Je promeux ce principe-là en participant à leurs activités. Souvent, je vais pour donner un appui, un discours, une contribution pour leur permettre de préparer aussi rapidement que possible des projets, des propositions de loi. Et comme une proposition de loi, lorsqu'elle va chez le législateur, nous est renvoyée systématiquement pour que nous puissions donner notre avis comme exécutif, ils peuvent être sûrs qu'à ce niveau-là, ils trouveront au niveau du gouvernement l'appui de mon ministère pour pouvoir faire en sorte que, dans toute la mesure du possible, la loi sur le libre accès à l'information puisse être renvoyée avec des avis favorables de l'exécutif au Parlement, qui est le seul à pouvoir légiférer.
Sur quelle note vous pouvez conclure cette émission en rapport avec nos droits d'accès à l'information?
Ce que je peux dire, c'est qu'il faut considérer le droit à l'accès à l'information comme un combat et ne pas considérer que c'est un droit qui va être accordé à qui que ce soit. Dans aucun pays au monde, cela n'est accordé. Ce n'est pas quelque chose qui est « granted », comme disent les Anglais. C'est quelque chose qu'il faut conquérir parce que la tendance de tout individu qui a des intérêts, que ce soit des intérêts d'ordre commercial, des intérêts d'ordre sécuritaire, des intérêts d'ordre professionnel, par exemple pour les services d'intelligence, pour les parquets, les services judiciaires, c'est de faire de la rétention, de garder une information pour des raisons d'efficacité. Et l'intérêt du journaliste, c'est d'aller pouvoir grignoter cette information-là, la déverrouiller. Donc c'est un combat, mais un combat qui doit se faire à la loyale. Moi, j'encourage les journalistes à poursuivre cette action-là. Voilà ce que je peux dire.
Donc, vous prenez un combat loyal pour accéder à l'information qui ne dénature pas ou qui ne porte pas préjudice à ceux qui donnent l'information aussi.
C'est exactement
ce que nous retenons. Merci beaucoup, monsieur le ministre.
C'est moi qui vous remercie.
Ainsi s'achève ce magazine Droits et Devoirs qui s'intéressait au droit d'accès à l'information. Nous recevions principalement le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. Cette émission a été coproduite avec le concours de Jean-Marc Matuaki. Jeff Ngoyi Mulonda vous l'a présenté. Merci de votre aimable écoute et à mardi prochain.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droits et devoirs.
Droits et devoirs.